Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 19 juin 2014. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Le gouvernement malien survit aisément à une motion de censure à l'Assemblée nationale.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Hervé Latsou, juge urgent de démarrer les pourparlers de paix au Mali.
La police kényane a dit hier avoir arrêté plusieurs suspects après le double raid sanglant de dimanche et lundi à Mpeketoni.
Bagdad a requis des frappes aériennes américaines contre les djihadistes, affirme le chef d'état-major interarmes américain.
Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine, propose l'instauration d'un cessez-le-feu unilatéral dans l'Est.
Enfin, le Cameroun, l'Espagne aussi, éliminés hier de la Coupe du Monde. Les détails dans notre journal de la Coupe du Monde que vous entendrez, tout comme la musique de Roger Muntou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Au Mali, rejet par 91 voix contre 24 de la motion de censure déposée à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition contre le gouvernement. Les débats qui ont duré 8 heures portaient essentiellement sur la crise au nord, les futures négociations avec les groupes armés, les questions économiques et l'école malienne de Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
Cette plénière a été basée sur les questions de sécurité, la situation à Kidal, l'achat de l'avion présidentiel et la coopération Mali-FMI. La seule question sur laquelle les députés de l'opposition et de la majorité ont eu un point de vue commun, c'est la question de l'école malienne. L'opposition malienne n'a pas eu de satisfaction quant aux réponses données par le gouvernement malien, surtout par rapport à la situation à Kidal, qui selon elle a été une immense perte pour le Mali. Modi Ndiaye, président du groupe parlementaire de l'opposition.
Vu qu'aucune circonstance atténuante ne peut lui être accordée en raison du mépris, de l'arrogance et des mensonges faits au peuple sur ses affaires, vu l'humiliation historique que notre peuple a subie, les députés de l'opposition malienne demandent humblement à l'Assemblée nationale de censurer purement et simplement ce gouvernement, et cela par un vote positif pour arrêter ces dérives.
Sur les 115 députés présents, 24 ont voté pour la motion de censure et 91 contre, d'où la satisfaction du Premier ministre Moussa Mara.
Vous aurez pu, à travers des questions orales, des interpellations, des enquêtes parlementaires, pourquoi pas, ou de même les questions d'actualité, obtenir des informations et nous épargner le temps mis dans cet exercice. Mieux encore, vous aurez pu nous faire partager vos propositions sur tous les sujets que vous estimez maltraités.
Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Hier au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a annoncé le déploiement prochain de drones au Mali. Hervé Latsou a également jugé urgent de démarrer des pourparlers de paix dans ce pays. Nous y reviendrons plus en détail dans la seconde partie de cette édition du Monde aujourd'hui.
Et toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont annoncé hier aux autres membres que le leader présumé de l'attaque meurtrière de 2012 contre le consulat américain à Benghazi planifiait des attaques contre d'autres Américains. La représentante permanente américaine Samantha Power a déclaré dans une lettre au Conseil que l'arrestation d'Ahmed Abu Khattala, dimanche près de Benghazi, se justifiait par la prévention d'autres attaques et était conforme aux droits inhérents des États-Unis à la légitime défense.
L'ambassadeur Christopher Stevens et 3 autres Américains ont perdu la vie dans cette attaque de Benghazi. À noter que le gouvernement libyen a condamné ce qu'il a appelé cette atteinte regrettable à la souveraineté libyenne et demandé l'extradition d'Abu Khattala pour le juger en Libye même. On doute que Washington le fasse.
Au Kenya, la police a annoncé mercredi l'arrestation de plusieurs suspects après le double raid sanglant de dimanche et lundi à Mpeketoni, localité proche de l'archipel touristique de Lamu et dans un village voisin au Kenya. Avec un bilan d'une 60aine de morts, rappelle l'AFP, il s'agit de l'attaque la plus grave depuis l'assaut par un commando Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi qui avait fait 67 morts en septembre 2013.
Trêve du mondial en République centrafricaine, les autorités nationales estiment que leur appel en faveur de la paix durant la Coupe du Monde 2014 est suivi. C'est en tout cas l'avis du Premier ministre centrafricain André Zapa-Yeke.
depuis la Pentecôte passée, où il n'y a eu aucun incident. On a la Pentecôte qui est une fête chrétienne extrêmement importante, ce qui veut dire que la communauté musulmane avait respecté cette fête chrétienne. Depuis que nous avons la Coupe du Monde, les choses évoluent dans le bon sens. Vraiment, les Centrafricains aujourd'hui se mobilisent autour du seul roi que nous avons en ce moment, qui est le roi football. Et c'est une très bonne chose que nous pensons à autre chose, que nous nous retrouvons autour du petit écran, dans d'autres circonstances, pour parler d'autre chose, pour que nos vedettes nous fassent rêver. J'espère que les choses vont continuer dans ce sens. Bientôt, nous aurons le Ramadan. J'insiste encore là-dessus. Un mois de Ramadan, un mois de un mois de fraternité, d'entraide, et je pense que ce sera encore l'occasion également de montrer vraiment notre engagement dans la paix en évitant tout acte susceptible de nous ramener encore en arrière.
C'était le Premier ministre centrafricain André Nzapakeye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes américain, dit que l'Irak a demandé des frappes aériennes américaines contre les djihadistes sunnites qui ont pris des villes clés et menacent maintenant Bagdad, la capitale. Intervenant devant une commission sénatoriale, le général Dempsey a déclaré qu'en tant que militaire, il est profondément déçu, estimant que le gouvernement irakien a laissé tomber son peuple.
Pour le secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, les leaders chiites irakiens n'ont jamais respecté leur engagement en faveur d'un gouvernement d'union nationale incluant des sunnites et des kurdes. De la Colombie, où il est en visite, le vice-président américain a parlé au téléphone au premier ministre irakien Nouri al-Maliki ainsi qu'aux dirigeants sunnites et kurdes. Il a de son côté insisté sur la nécessité d'un tel gouvernement pour faire face à la menace posée à tous les Irakiens par les djihadistes. Le président Barack Obama, qui examine toujours ses options, a reçu hier à la Maison-Blanche les leaders du Sénat et de la Chambre des représentants.
Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, a proposé l'instauration d'un cessez-le-feu unilatéral dans l'est de son pays.
Selon des agences de presse russes, M. Poroshenko a déclaré hier que cette trêve donnerait aux séparatistes de la région la chance de désarmer ou de quitter le pays pour ceux qui le désirent. Mardi, M. Poroshenko avait eu avec son homologue russe Vladimir Poutine une conversation téléphonique sur un possible cessez-le-feu.
En Afghanistan, le candidat favori exige l'arrêt immédiat du décompte des suffrages du second tour de la présidentielle. Abdullah Abdullah parle d'une fraude généralisée. Une accusation qui fait planer le doute sur un transfert pacifique du pouvoir dans le pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Des millions d'Afghans avaient défié les talibans pour se rendre aux urnes le 14 juin en vue du second tour. Ils devaient choisir entre l'ancien chef de la diplomatie, Abdullah Abdullah, venu en tête au premier tour, et l'ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani. S'exprimant lors d'une conférence hâtivement organisée hier à Kaboul, le candidat Abdullah a accusé la commission électorale de fraude massive. Si celle-ci poursuit le décompte des voix, le processus n'aura aucune légitimité, a-t-il dit. Abdullah Abdullah a réitéré sa demande que la commission électorale limoge un de ses responsables qu'il accuse d'ingérence directe dans le processus électoral. Selon lui, le nombre d'électeurs ayant pris part au scrutin a été gonflé pour favoriser son adversaire. Les plaintes d'Abdullah seront examinées, mais il est hors de question de retarder le décompte des suffrages, a fait savoir un porte-parole de la commission électorale afghane.
Des condamnés à mort ont été exécutés par injection létale dans trois États américains. Ce sont les premières exécutions depuis qu'un condamné à mort avait lentement agonisé en avril dernier, soulevant de nouvelles questions sur la peine capitale aux États-Unis. Les précisions de Michel Joseph.
La première exécution a eu lieu en Géorgie, mardi soir. Le condamné Marcus Wallens avait enlevé, violé et tué une adolescente de 15 ans. Une heure après, John Winfield, condamné pour le meurtre de deux femmes en 1996, était à son tour exécuté dans l'État du Missouri. La Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner leurs appels de dernière minute. Plusieurs exécutions à travers les États-Unis avaient été reportées après que le meurtrier Clayton Lockett, mis à mort par injection létale le 29 avril en Oklahoma, a agonisé pendant une quarantaine de minutes. Les responsables des prisons des États-Unis, où la peine de mort reste en vigueur, ont été obligés de se procurer de nouveaux produits chimiques auprès des compagnies américaines après la décision des compagnies pharmaceutiques européennes de cesser de les approvisionner. Une autre exécution a eu lieu hier soir dans l'État de Floride.
On Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, La Voix de l'Amérique. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU envisage de déployer des drones non armés au Mali pour renforcer les moyens de la MINUSMA pour protéger la population civile et son propre personnel. Hervé Latsou l'a dit hier devant le Conseil de sécurité qui doit examiner le renouvellement du mandat de sa mission au Mali à la fin du mois. Darina Naidoo.
Intervenant devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier, Hervé Latsou a déclaré que la mission onusienne au Mali doit être en mesure d'identifier, de dissuader et de déjouer les menaces. Les Nations Unies, qui utilisent depuis déjà plusieurs mois ce genre de drones au-dessus de l'est de la République démocratique du Congo, se disent satisfaites des résultats jusqu'ici. Ces engins, explique-t-on, ont été très utiles dans la protection des civils et la distribution de l'aide humanitaire en fournissant aux forces de maintien de la paix des informations en temps réel sur les mouvements de troupes rebelles dans des régions difficiles d'accès. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que son gouvernement avait donné son aval.
Ces engins n'ont pas encore été déployés, mais nous espérons qu'ils le seront aussitôt que possible.
Pour Hervé Latsou, un processus politique réussi est la pierre angulaire de la stabilité au Mali. Tous les aspects de la stabilisation du Mali, y compris la restauration de l'autorité de l'État, le rétablissement de la sécurité et de la protection des civils, restent subordonnés à la conclusion réussie des négociations de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord dans le cadre de l'accord de Ouagadougou. Et M. Latsou de souligner que le succès du processus politique au Mali reste d'importance cruciale pour stabiliser le pays.
The status quo cannot stand.
Le statu quo ne peut pas continuer. Des progrès dans le processus politique sont urgents. Le moment est venu pour des pourparlers de paix.
Pour M. Latsou, malgré les efforts de la communauté internationale et des autorités maliennes au cours de l'année écoulée, les combats tragiques dans la région de Kidal et leurs conséquences et l'insécurité générale causée par la présence persistante de groupes terroristes dans le nord du Mali montrent qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à une stabilité durable dans ce pays.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
L'Ebola s'installe au Libéria. Les autorités sanitaires annoncent qu'au moins 7 autres personnes auraient succombé au virus à Monrovia. Ce sont les premiers décès signalés dans la capitale et les premiers cas dans le pays depuis 2 mois. La peur gagne les populations quant à une éventuelle expansion de la maladie. Jean-Roger Bion.
Parmi les 7 personnes décédées, on compte une infirmière et un enfant en bas âge. 2 de ces cas ont été testés positifs au virus de l'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé aussi 6 nouveaux cas suspects dans le district de Foya, dans le nord du pays. Ce sont les premiers cas signalés du virus Ebola au Libéria depuis début avril. L'adjoint du ministre de la Santé en charge des services de prévention, Tolbert Niansoua, tente d'expliquer le retour en force de l'épidémie.
Un cas est à l'origine de la propagation de cette maladie à Monrovia. Il y a une dame qui est venue de Sierra Leone en passant par Foya et elle est tombée malade à Monrovia. Notre équipe de surveillance a appris que des gens dans la maisonnée mouraient de façon inexpliquée.
L'épidémie d'Ebola a commencé en Guinée en février avant de faire son apparition en Sierra Leone. L'OMS a déclaré que 337 personnes en sont mortes en Afrique de l'Ouest, dont 24 au Libéria, 49 en Sierra Leone et 264 en Guinée. Leviticus Colli, un habitant de Monrovia, affirme que ces nouveaux cas au Libéria sont inquiétants.
Il y a quelques semaines ou quelques mois, on nous a dit que le virus Ebola n'était plus là. Son retour inquiète tout le monde. Nous espérons que le ministère de la Santé fera tout son possible pour mettre la situation sous contrôle. Je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Je ne suis pas prêt. Je ne veux pas mourir.
Pour aider à contenir l'épidémie, le ministère libérien de la Santé a réactivé le groupe national de travail sur l'Ebola et tient des réunions quotidiennes avec les organisations partenaires comme la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, pour arrêter des stratégies afin de faire face à la résurgence de la maladie. Le plus important reste toutefois de réussir à garder les populations calmes.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, dans Washington Forum, les insurgés islamistes marchent sur Bagdad et en réponse, les États-Unis envisagent un rapprochement avec l'Iran. Quelle solution après cette dernière crise politico-sécuritaire a frappé l'Irak? Envoyez-nous vos commentaires et questions sur la page Facebook Washington Forum. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h PU.
Le chef de l'Agence de développement du gouvernement américain a annoncé un nouveau soutien financier à des initiatives anticorruption en Ukraine. En visite à Kiev, l'administrateur de l'USAID a déclaré que les États-Unis soutiennent l'État ukrainien dans sa quête de réforme. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Rajiv Shah a promis 10 millions de dollars en soutien supplémentaire à l'Ukraine, un pays en difficulté. Il dit que le gros de cette somme sera utilisé pour atteindre une priorité du nouveau chef de la nation, la lutte contre la corruption. La corruption, c'était justement la principale revendication des Ukrainiens qui se sont soulevés en février dernier contre le président Viktor Yanukovych. L'offre de 10 millions de dollars n'est qu'une infime partie de l'intervention de l'USAID en Ukraine, a dit Rajiv Shah, qui a rencontré le nouveau président Petro Poroshenko durant cette visite à Kiev et dans la ville portuaire d'Odessa. L'USAID et les États-Unis ont eu un partenariat de longue date avec le peuple de l'Ukraine. Ce que nous avons fait ces derniers mois, selon les instructions du président Obama, c'est la mise en œuvre d'une garantie de prêt de 2 milliards de dollars pour aider le nouveau gouvernement à avoir accès au financement dont il a besoin. Le vice-président Biden a annoncé 48 millions de dollars de soutien technique pour aider à mettre en place les politiques et les réformes économiques qui permettront un accord d'adhésion avec l'Union européenne et l'obtention de prêts du Fonds monétaire international et d'autres entités, a ajouté l'administrateur de l'USAID. Kiev accuse Moscou de soutenir les séparatistes dans l'Est russophone. M. Poroshenko, qui a promis lors de son investiture au début du mois de mettre fin à la violence en l'espace d'une semaine, a appelé à la création d'un couloir humanitaire pour ceux qui ont été déplacés par les combats dans l'Est et qui affluent vers la capitale. Eh bien, vous le savez, les États-Unis sont évidemment très inquiets et nous avons déjà envoyé des experts de notre bureau d'assistance en cas de catastrophe à l'étranger afin d'aider le gouvernement à évaluer les besoins d'aide humanitaire, a dit l'administrateur de l'USAID. Hier, Rajiv Shah a visité un mémorial érigé au centre de la capitale ukrainienne à la mémoire des dizaines de manifestants tués dans le soulèvement de février.
La Voix de l'Amérique, Washington, la Voix de l'Amérique. Nous allons maintenant retrouver de Manaus, ou à Manaus, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique pour le journal de la Coupe du Monde, Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. Toujours depuis l'Amazonie où la soirée d'hier a été un véritable cauchemar pour le Cameroun, éliminé de cette Coupe du Monde, tout comme l'Espagne, championne du monde en titre. Je vous le disais, lamentable soirée ce mercredi à l'Arena Amazonia de Manaus. 4-0, c'est la défaite du Cameroun contre la Croatie. Les Lions indomptables ont fait illusion 10 minutes avant de s'écrouler, réduit à 10, sans Samuel Eto'o qui était forfait pour la rencontre. Les Lions ont vite été domptés par des Croates, pas plus brillants, mais plus concentrés et soudés. Le Cameroun quitte donc cette compétition par la petite porte et les supporters camerounais venus jusqu'au Brésil sont dégoûtés. Écoutez quelques réactions recueillies à la sortie du stade.
Je suis complètement dégoûté. Vous vous rendez compte? Je suis parti de Yaoundé, j'ai fait une escale à Libreville. Après Libreville, Johannesburg, Sao Paulo, Sao Paulo, Vitoria, pour venir voir des matchs comme ça où les footballeurs n'arrivent pas à se donner à 100% pour gagner un match de football. C'est écœurant. Je suis dégoûté.
On n'apprend pas de nos erreurs. Parce que c'est incroyable qu'on parle encore des problèmes de primes à deux jours d'une compétition, qu'on bloque un avion qui est affrété pour la compétition, qui va passer une heure de plus à un aéroport. Si on n'apprend pas encore de cette Coupe du Monde-ci, ça ne sert à rien de venir. Tout simplement déçu parce que nous, on a fait le voyage de très loin. On vient de Paris, on vit en France, pour supporter les Lions.
En Amazonie,
à nos frais. Voilà, on les supporte. Et puis là, ils nous déçoivent comme ça. Ils ne sont même pas capables de mouiller le maillot. C'est pas sérieux.
Voilà pour ces réactions camerounaises ici au Brésil. Et écoutons à présent le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Jules Lobo.
Nous voyons les joueurs qui ont refusé de prendre leurs responsabilités, qui se sont comportés de façon vraiment très lâche.
Cela est dû à quoi? La mauvaise préparation?
Non. C'est tout simplement une absence de responsabilité. Vous avez par exemple vu la fin de match où Moukandjo est en camp d'intégration avec Assou Ekoto. Si bien qu'Assou Ekoto lui a donné un coup de tête, ce qui est vraiment des attitudes déplorables. Ça ne manque pas d'une équipe nationale, surtout d'une équipe camerounaise, quoi.
Personnellement, je m'attendais à ce score-ci. Par rapport au match passé, les Camerounais n'ont rien joué. Et c'est vraiment désagréable. C'est surprenant, ça fait mal. Et la réaction qui m'a la plus énervé dans ce match, c'est la réaction de Song, Alexandre Song. Ça, c'est une bassesse. Ce n'est pas digne d'un pro, d'un joueur qui joue à l'étranger.
C'était vraiment difficile. Il ne faut pas qu'on accuse les gars. Les gars ont mouillé le maillot, mais la réalité du football, c'est qu'il y a un vaincu et quelqu'un qui doit perdre, non?
C'était quand même passable, mais ils n'étaient pas bien préparé. Donc le match les a dépassés.
Autre élimination spectaculaire hier, celle de l'Espagne. La Roja, championne du monde en titre, a eu droit à une véritable correction de la part du Chili. Défaite 2-0, retour à Madrid après deux défaites. Le Chili se qualifie pour les huitièmes de finale après la victoire des Pays-Bas sur l'Australie 3-2. Le Chili et les Pays-Bas se rencontreront au prochain match pour la première place de ce groupe B. La Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne, 4 buts en 5 matchs, une seule victoire, un nul et 3 défaites. La première journée de la phase de poule de la Coupe du Monde n'a pas réussi aux équipes africaines. C'est ce que fait remarquer notre consultant Jules Valentin Gouet dans son coup de sifflet.
We celebrate the best African football. No, voilà.
Bonjour. Les statistiques de l'Afrique sont décevantes. Face à des adversaires longtemps tenus en échec ou dominés, les formations africaines ont fini par céder ou faire montre d'un manque de réalisme inexpliqué. Alors que son équipe arrive à contenir dans la douleur, plus d'une heure durant la furia mexicaine, Aurélien Tchédiou est aux abonnés absents sur le compte victorieux des Aztèques. Les Ghanéens, eux, offrent aux États-Unis le but le plus rapide du mondial, tandis que les Nigériens font montre d'une maladresse inhabituelle contre l'Iran, là où les Algériens transforment une victoire assurée en défaite en fin de partie face aux Belges. Toutes ces déconvenues ont les mêmes causes. La maladresse, des absences dans la concentration, une mauvaise gestion des temps sensibles de la rencontre, notamment les entrées de mi-temps et les sorties. Des coups de pied mal négociés. En entrant sur le terrain pour le match capital contre la Colombie, la Côte d'Ivoire devra garder ses enseignements en tête, elle qui reste la seule chance réelle de l'Afrique pour la suite de la compétition. Les éléphants, donc, doivent se montrer concentrés, patients, dominateurs dans les duels et lucides pour une victoire qui apporterait à l'Afrique l'indispensable qualification au second tour afin de légitimer son quota de représentation à la Coupe du Monde. À demain.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Ce soir, je vous retrouverai depuis Brasilia. C'est là que les éléphants de Côte d'Ivoire joueront leur deuxième match contre la Colombie, une équipe très technique. Le sélectionneur Sabri Lamouchi a annoncé hier que l'attaquant Didier Yakonan manquera ce match contre la Colombie en raison d'une blessure au genou. Il espère toutefois être remis pour le dernier match de la Côte d'Ivoire dans ce groupe C face à la Grèce. Colombie et Côte d'Ivoire, ces deux sélections ont remporté leur premier match. Erigo Gervais, l'entraîneur du CEO Sport San Pedro, revient d'abord sur les lacunes que les éléphants devront corriger pour le match de ce soir.
La défense de Warren est faible. Et puis, en attaque, la finition est encore mauvaise. Et il faut avoir au moins 6 occasions avant de marquer un but. Je pense que quand le capitaine est rentré, Didier Drogba, ça a changé. Mais il faut améliorer cela en tout cas.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait donner encore un peu plus de temps à Didier Drogba?
Il faut le faire, puisque sa présence sur le terrain a donné 2 buts. Alors que quand il n'était pas présent, ça n'a pas marché offensivement. Je pense qu'il faut lui donner encore plus de temps de jeu pour que le Côte d'Ivoire se mater très tôt parce que c'est pas toujours bien de courir derrière le résultat. Et puis sur le plan psychologique, c'est quand même celui qui sonne la révolte, surtout sur, on l'a vu avec sa rentrée, et puis sur plusieurs matchs, dans les matchs amicaux aussi de préparation. Donc il faut le faire un peu très tôt pour que déjà la Côte d'Ivoire puisse avoir une bonne match déjà au niveau du score, et puis ensuite voir si on peut le reposer. Je pense qu'il faut profiter de lui, il faut chercher à gagner d'abord avant de pouvoir le faire reposer, que de le faire reposer. et puis à chaque fois avoir le dos au mur pour chercher à égaliser. Ça ne va pas nous réussir toujours.
Rigo Gervais, l'entraîneur du COE Sport San Pedro. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, préparé par Bagassi Koura et Nicolas Pinault. Idrissa et tous les fidèles de La Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde.
Et maintenant, la page musicale de Roger Montou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Les États-Unis ont bien débuté leur mondial en dominant logiquement le Ghana. Il ne fallait pas arriver en retard en première mi-temps. Après seulement 30 secondes des jeux, Dempsey transperçait la défense ghanéenne et ouvrait le score pour les Américains. C'était la fête partout ici aux États-Unis. Ce matin, une dédicace à l'équipe américaine. Écoutons The OJs dans We Love America.
OJs, c'est un groupe phare de la soul créé en 1958. Cinq amis décident de chanter d'abord dans leurs églises. Leur talent donne lieu au tube I'll Be Sweeter Tomorrow Than I Was Today, Love Train ou encore Let Me Make Love To You.
Oui, Idrissa, à l'origine, ils étaient un groupe gospel de l'Ohio qui s'appelle les Triumph, puis les Mascots, avant d'adopter leur nom définitif en hommage à un DJ de Cleveland qui soutient leur premier single, Miracles, en 1961, Eddie O.J.
The O.J.'s, I Love America. Merci Roger.
De rien Idrissa, nous saluons les étudiants à l'université de Lubumbashi en RDC.
Roger Muntu, que vous retrouverez dans le RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.